RFI, grand reportage.
Hassan Diop.
Elles sont près de 660 000 dans le monde, réparties sur tous les continents. La plupart vivent au service des plus pauvres ou dans des communautés contemplatives. D'autres sont envoyées à Rome par leur congrégation où elles se mettent au service d'un monde hiérarchique masculin, souvent dans le plus grand secret. Nombre de ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu se retrouvent alors dans une spirale aux limites de l'esclavagisme, un fléau qui touche jusqu'à l'intérieur du Vatican. Aujourd'hui, ces sœurs commencent à donner de la voix devant des nombreuses formes d'exploitation qu'elles subissent. C'est un grand reportage signé à Rome par Eric Sénac.
La cloche monumentale de la basilique Saint-Pierre égrène les heures en cette froide matinée de janvier. Sur la place, au cœur du Vatican, se pressent touristes, cols romains et soutanes des prêtres ou habits des religieuses. Une scène peu commune attire notre regard, celle d'une religieuse promenant un chien en laisse. D'origine asiatique, cette sœur ne souhaite pas répondre à nos questions. Tout juste sait-on que le chien n'est pas le sien, mais celui d'un évêque au service duquel elle travaille. Elles sont nombreuses, ces femmes, venues dans la capitale du christianisme. Certaines étudient la théologie ou la philosophie dans les universités pontificales ou enseignent dans les écoles catholiques. D'autres travaillent pour des cardinaux ou des évêques, souvent loin des regards. Blanchisserie, repassage, cuisine, ménage, ces petites mains travaillent dur, souvent dans le silence et le plus grand dévouement. Au supermarché du Vatican où nous sommes ce matin, on les retrouve nombreuses à la caisse. Des femmes au pas pressé et au regard souvent sombre. Un travail parfois ingrat, voire même à la limite de l'esclavage. Il y a quelques mois, un article a révélé cette grande précarité des religieuses, publié dans le supplément mensuel de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Son titre, « Le travail quasi gratuit des sœurs ».
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Venga, grazie. Venga avanti. Ecco. Venga pure, venga pure. Ci possiamo accomodare in questa stanza, si può
sì,
accomodare.
Grazie.
Celle qui est à l'origine de cette enquête s'appelle Lucetta Scarafia. Cette historienne et journaliste très respectée en Italie est l'une des rares voix féministes tolérées au Vatican. Pour elle, il devenait nécessaire de dénoncer les conditions de vie de ces religieuses.
In questi anni noi riceviamo molte lettere, abbiamo ricevuto molte lettere di religiose.
Ces dernières années, nous avons reçu beaucoup de lettres de religieuses. Beaucoup sont venues nous voir. C'est une réalité que nous connaissons. Ces lettres, elles viennent d'Afrique, d'Asie ou encore de l'Italie. On a reçu beaucoup de courriers après l'enquête, des lettres qui nous remerciaient. Il y en a une d'Espagne notamment, que j'ai trouvée terriblement triste et dramatique, où les sœurs racontent leurs conditions de vie, qui souvent sont très dures. La chose dont elles pâtissent le plus est d'être traitées comme si elles étaient des servantes, qui doivent manger de leur côté, ne jamais partager la vie des évêques ou des cardinaux, qui pourtant parlent de famille en évoquant ces religieuses. Mais elles ne mangent pas avec eux, ne leur parlent pas, elles ne partagent rien avec eux. Il n'y a aucun échange humain entre eux.
L'enquête, publiée l'an dernier par le mensuel de l'Osservatore Romano, a fait du bruit chez les religieuses, soulagées que l'on mette enfin des mots sur leurs conditions de vie, qui plus est, dans une publication du Saint-Siège. Elle a confirmé aussi ce rapport de soumission, si l'on en croit Lucetta, qui évoque cette lettre reçue.
Ce sont des sœurs mexicaines qui m'ont écrit. Elles travaillent au lycée d'un évêque en Espagne et m'ont raconté avoir rigolé en lisant l'article, alors qu'elles étaient au supermarché à faire les courses. L'évêque, l'ayant appris, les a réprimandées, expliquant qu'étant les sœurs de l'évêque, il ne fallait pas rire en public. Sans doute ne faut-il pas rire du tout. Et leur a confisqué leur portable pour les punir. Il n'y a pas de sœurs chez les cardinaux. Ou chez les évêques. De nombreuses institutions les font travailler, comme les séminaires.
L'enquête de l'Osservatore Romano soulevait aussi le problème de la rétribution. De nombreuses religieuses, en effet, travaillent gratuitement, sans compter leurs heures. Souvent, aucun contrat ou convention n'a été signé pour établir leurs conditions de travail. Et quand elles sont payées, comme celles qui sont professeurs dans des universités, c'est souvent moins qu'un homme d'église. Au-delà des conditions de travail, c'est toute une vision de la femme qui pose problème. Selon Lucetta Scarafia, cela dépasse même les murs du Vatican et concerne toute l'Église catholique visible à Rome.
Non sono solo, diciamo, singoli cardinali o vescovi che hanno le loro suore.
Dans leur majorité, ils vivent grâce au travail des religieuses. Elles font le ménage, la cuisine, elles lavent et repassent le linge des futurs prêtres. Et donc, ces séminaristes apprennent à voir les femmes seulement comme des servantes. Cela va marquer toute leur vie. C'est la dure réalité, mais beaucoup d'institutions sont dans ce cas.
E quello è molto brutto, per esempio, ma molte istituzioni sono così.
Signore, vieni presto il mio aiuto.
Dans cette communauté de religieuses, c'est l'heure des vêpres, la prière du soir. Parmi celles qui psalmodient, il y a Sister Mary, d'origine américaine. Pendant 9 ans, elle a travaillé dans une librairie de livres religieux à quelques mètres du Vatican. Sister Mary a écrit une thèse sur le mouvement féministe en Italie et connaît de nombreuses religieuses qui vivent dans une grande précarité. Nous la retrouvons dans un café situé à 2 pas de la place Saint-Pierre. Sister Mary commence par évoquer ce message étrange qu'elle a reçu d'une religieuse qu'elle connaît bien peu de temps avant notre entretien.
Une des sœurs que je connais fait le ménage chez un des cardinaux. On s'est vu très récemment, mais j'ai reçu d'elle hier un message très étrange, me disant qu'on n'allait plus communiquer via WhatsApp, que c'était une décision personnelle et qu'elle espère que je comprenne. Mais moi, comme religieuse, j'arrive à lire entre les lignes et je sais qu'il se passe quelque chose. J'espère juste qu'on ne l'a pas forcée à couper les contacts avec le monde extérieur.
Au Vatican, comme dans plusieurs diocèses, la peur est encore un véritable frein qui engendre le silence et permet de garder le contrôle sur ces situations de grande vulnérabilité. Comment en est-on arrivé à ces situations? Pourquoi tant de religieuses sont-elles traitées comme inférieures? Pour Sister Mary, il faut avant tout regarder dans l'histoire des congrégations religieuses féminines.
The gift of religious life is a gift that comes through the church, and the church is hierarchical in structure. Therefore,
la vie religieuse est un don qui vient à travers l'Église, et l'Église est par nature une structure hiérarchique. Par conséquent, des religieuses d'une congrégation, même si celle-ci est reconnue par le pape, doivent demander une autorisation à l'évêque si elles veulent quitter le diocèse, ou même pour y effectuer un travail. De nombreuses congrégations de femmes ont une supérieure, mais l'autorité ultime, c'est l'évêque. Et beaucoup de ces congrégations ont été fondées par un évêque en diocèse, dans le but de faire des tâches qu'il a lui-même fixées.
Un rapport de soumission qui est donc profondément enraciné dans les structures ecclésiales.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés de bœufs fraîches, il me fait reposer.
On retrouve cette domination souvent quand les sœurs sont peu éduquées et viennent de pays pauvres. Beaucoup ont voyagé d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine jusqu'à Rome. Certaines ont des histoires compliquées, des blessures personnelles, et bien souvent, elles préfèrent se taire car elles se sentent redevables d'avoir été envoyées à Rome.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue chez les missionnaires d'Afrique.
Merci.
Bienvenue, venez par là.
C'est le cas notamment pour les sœurs venues d'Afrique. Le père Stéphane Joulin les connaît bien. Il fait partie de la communauté des Pères Blancs missionnaires d'Afrique, dont la maison générale est basée à Rome. Psychothérapeute, il travaille également sur la pédophilie et les abus sexuels dans l'Église.
Certaines congrégations, par exemple, acceptaient d'envoyer des sœurs, mais n'avaient pas nécessairement l'argent pour soutenir ça. Alors après, là, les prendre et dire « Ah ben moi, je vais m'en occuper financièrement et tout ça », mais elles sont entièrement à la merci de ce prêt-là. Ou quand on envoyait certaines religieuses faire des études sans leur donner les moyens de faire des photocopies, ou d'acheter le nécessaire, donc elles se tournaient vers des prêtres de leur pays, des qu'elles connaissaient pour les aider et tout ça. Et certains de ces prêtres abusaient de cette nécessité de ces sœurs qui étaient en besoin d'aide, que ce soit intellectuelle ou matérielle, pour relire des textes, ne serait-ce que faire des corrections sur une thèse, quoi, des choses comme ça, qui devenaient sexuellement tarifées, quoi. Donc certaines congrégations, pendant un moment, avaient refusé et certaines refusent encore d'envoyer leurs religieuses à Rome à cause de ça. C'est pas la bonne solution non plus, mais elles protègent leurs sœurs, et ce que je comprends tout à fait. Donc c'est une vraie problématique aussi ici à Rome, mais pas seulement à Rome, c'est une vraie problématique qu'on retrouvera dans d'autres pays où les sœurs sont à risque d'être dépendantes financièrement d'hommes, de religieux ou de prêtres.
Pour le père Joulin, ces femmes ont besoin de libérer leur parole et souhaitent une véritable réponse de l'Église. Des changements concrets pour que leur vie ne soit plus abîmée, qu'elles puissent vivre pleinement leur vocation. Mais la tâche est immense, tant la peur est un verrou qui n'a pas encore sauté.
C'est bien là tout l'enjeu. Tous ceux qui essayent de travailler sur cette question-là ont des difficultés à obtenir la parole de ces femmes et de ces sœurs parce qu'elles ont tellement été, génération après génération, éduquées, formées au silence, à la soumission, à l'obéissance sans discuter, qu'elles n'osent plus une parole. Elles ne pensent pas qu'elles ont une droit à une parole ou qu'elles ont une parole qui vaut la peine. Alors il y a toute une génération de sœurs qui a été émancipée, en particulier avec la théologie de la féministe. Il y a des voix qui sont sorties et qui ont permis cette libération. Et je pense qu'il y a tout un mouvement qui a commencé avec le MeToo aux États-Unis, mais qui continue aujourd'hui et qui se répand dans l'Église aussi, pour aider toutes ces femmes à pouvoir dire ce qu'est leur vécu, ce qu'est leur et puis quelle est leur espérance pour l'Église, qu'est-ce qu'elles veulent apporter, et qu'elles puissent enfin s'extraire de ce statut de mineur perpétuel dans lequel le système les maintient. C'est bien ça tout l'enjeu. Et il faut que nous aussi, les hommes, on s'engage là-dedans. Ça veut dire qu'il faut qu'on change nos regards, notre manière de collaborer avec les femmes dans l'Église. Les femmes comme chef, j'avais une directrice de thèse qui était une femme, mais c'est pas évident quand d'un côté, on nous a appris à être des clercs, ceux qui exercent un pouvoir, une autorité, et que d'un autre côté, on a appris à des sœurs à se soumettre à l'autorité des clercs. Donc là, il y a vraiment une bascule à faire, un changement, une prise de conscience. Et ça ne pourra se faire que si, d'un côté, les femmes et les religieuses osent la parole, et puis que, du côté des hommes, on facilite ce processus. On le permette, on l'accompagne, on l'aide, on le soutienne. Pas de manière paternaliste, simplement nous mettre à leur service en disant « comment on peut vous aider ?»
Comme le mouvement MeToo, les langues commencent pourtant à se délier dans l'Église, mais le processus est long. Le véritable enjeu pour Stéphane Joulin est bien celui de la place de la femme dans l'Église, à condition que les hommes se laissent interpeller.
Qu'elle puisse enfin s'extraire de ce statut de mineur perpétuel dans lequel le système les maintient. C'est bien ça tout l'enjeu. Et moi, j'espère, je suis homme, je veux aider à ce processus-là de la manière que je pourrais. Et il faut que nous aussi, les hommes, on s'engage là-dedans. Ça veut dire qu'il faut qu'on change nos regards, notre manière de collaborer avec les femmes dans l'Église, qu'on accepte d'avoir des femmes comme chefs. J'avais eu une directrice de thèse qui était une femme, j'ai eu des chefs comme directrice dans des services. Voilà, faut accepter qu'on ait deux personnes qui travaillons à égal. Voilà, mais c'est pas évident quand d'un côté on nous a appris à être des clercs, ceux qui exercent un pouvoir, une autorité, et que d'un autre côté, on a appris à des sœurs à se soumettre à l'autorité des clercs. Donc là, il y a vraiment une bascule à faire, un changement, une prise de conscience. Et ça ne pourra se faire que si, d'un côté, les femmes et les religieuses osent la parole, continuent, et puis que du côté des hommes, on facilite ce processus. On le permette, on l'accompagne, on l'aide, on le soutienne. Pas de manière paternaliste, simplement nous mettre à leur service en disant « comment on peut vous aider ?»
L'une des rares à avoir vaincu sa peur s'appelle Doris Reisinger. Cette jeune théologienne allemande a fait partie pendant 8 ans d'une communauté religieuse, l'œuvre, mais sa vie qu'elle avait consacrée à Dieu a viré au cauchemar. Au mois d'octobre dernier, à Rome, lors d'une conférence sur la place des femmes dans l'Église, Doris est venue partager son histoire. Aujourd'hui, elle nous raconte.
I joined religious life in 2003 when I was 19 years old.
Je suis rentrée dans la vie religieuse en 2003, à l'âge de 19 ans. En 2008, seulement 6 mois après avoir professé mes vœux, le supérieur de la communauté où je vivais est entré dans ma chambre et m'a violée. Il m'a violée plusieurs fois. Un an plus tard, un autre prêtre qui travaille actuellement au Vatican, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, m'a agressée en pleine confession. Il a d'abord demandé s'il pouvait être mon confesseur, ce qui lui a été accordé, et il a utilisé le confessionnal à des fins sexuelles. Il me gardait en confession une demi-heure, parfois une heure. Il me disait combien il m'aimait, qu'on ne pouvait pas se marier, mais que notre relation serait différente. J'ai dénoncé mes deux agresseurs, ces deux prêtres à mes supérieurs, mais ils n'ont rien fait, même quand j'ai fait remonter mon histoire jusqu'au Vatican, qui n'a pris aucune sanction sérieuse.
Doris a fini par quitter la vie religieuse en 2011 et se dit heureuse aujourd'hui d'avoir eu la force de le faire. Son cas est emblématique de certaines zones d'ombre au Vatican. Son confesseur agresseur a fini par démissionner il y a quelques jours seulement de la puissante congrégation pour la doctrine de la foi où il travaillait sans jamais n'avoir été inquiété. En 2014, pourtant, il avait reconnu les faits. Cette violence contre les religieuses qui va jusqu'au viol ou agression sexuelle n'est pourtant pas nouvelle. En 1998, 3 universitaires américains avaient publié une grande enquête aux États-Unis révélant que près de 30% des religieuses avaient été sexuellement agressées. Des chiffres alarmants qui n'ont pas bouleversé pour autant les conditions de vie des sœurs. L'Union des supérieures religieuses, dont le siège est à Rome, a ces dernières années condamné à plusieurs reprises dans des communiqués ces abus. Mais le pouvoir de cette association reste limité. Les décisions contraignantes régissant la vie religieuse dépendent directement du Vatican, de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée. Un monde encore essentiellement opaque et surtout majoritairement masculin. Pourtant, avec 660 000 membres de par le monde, les religieuses sont 12 fois plus nombreuses que leurs homologues masculins. Pour Doris Reisinger, si l'Église veut mettre un terme au fléau des abus, elle doit opérer une véritable révolution culturelle.
The core of the problem is the system of exploitation. The church is
le cœur du problème est le système d'exploitation. L'Église est un système d'exploitation et cela est particulièrement visible dans les couvents, dans les communautés fermées. Il y a 2 niveaux de réflexion. Le premier est au niveau des constitutions de ces communautés qui souvent devraient être révisées ou réécrites car elles ne protègent pas les droits des femmes. L'autre niveau est idéologique. Quand vous êtes une religieuse, il est très facile d'intégrer que la soumission est toujours bonne, que souffrir est toujours bon, tout a du sens. Travailler au-delà de vos forces est toujours bon parce que Jésus est mort pour nous sur la croix. Et ce système crée les conditions parfaites pour abuser de ces religieuses. Il faut en finir avec cette idéologie et le Vatican doit la combattre efficacement.
È vero, dentro della Chiesa ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello.
Il y a quelques jours, dans l'avion qui le ramenait des Émirats arabes unis, le pape François a pour la première fois reconnu devant les journalistes que des prêtres et même des évêques avaient agressé sexuellement des religieuses. Une révolution, car jamais un souverain pontife avait évoqué cette réalité à haute voix. Le grand sommet sur les abus et la protection des mineurs organisé au Vatican à la fin du mois devrait être aussi l'occasion d'aborder le dossier de ces religieuses. Cela fait longtemps que nous travaillons le dossier, a confié le pape. Pour l'instant, les résultats se font attendre. Les religieuses, elles, espèrent que ce travail porte enfin des fruits concrets. Les religieuses veulent sortir de l'esclavage. Un grand reportage d'Éric Sénanque. Montage, Pierre Chaffangeon.